Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 17 janvier 1991.
Philosophie de la nature, puisque c'est l'univers, et l'aspect qualitatif apparaît immédiat dans la philosophie du vivant. Est-ce que j'ai essayé de vous rappeler la dernière fois en montrant qu'il y a cette situation privilégiée de l'homme par rapport au vivant, c'est qu'il peut saisir de l'intérieur l'opération vitale, la conscience. J'ai conscience de parler. Et la parole est une opération vitale. J'ai conscience de penser. J'ai conscience de prendre mon petit déjeuner. J'ai conscience de m'éveiller. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout de suite, on pourrait dire que dans ces deux parties de la philosophie, on essaie de saisir ce qu'il y a de fondamental dans le regard sur l'univers, ce qu'il y a de commun dans le regard sur tout l'univers, et je découvre la phusis, la nature. Tandis qu'au contraire, dans la philosophie du vivant, je ne regarde pas ce qu'il y a de commun dans le règne du vivant. Je le sais. Mais regardez l'animal de l'extérieur. Regardez la plante de l'extérieur. Ce n'est pas saisir la vie de la plante, la vie de l'animal. C'est pour ça que je commence tout de suite par ce vivant parfait, le plus parfait que je connais, l'homme. La philosophie grecque a commencé par ces deux aspects. Il y a eu les physiciens qui ont regardé l'univers et les pythagoriciens qui ont regardé l'homme religieux. Alors, ici, je vais au-delà de l'homme religieux, au-delà de l'éthique, pour saisir quel est le fondement de l'éthique et le fondement de l'homme religieux. C'est le vivant. Et normalement, la philosophie du vivant présuppose l'éthique religieuse, pythagoricienne, et l'éthique de l'amour d'amitié. Puisque dans l'amour d'amitié, il y a un phénomène extrêmement blessant. C'est que mon ami peut mourir avant moi. La mort de l'ami montre la limite de l'éthique. Quelque chose qui brise là et qui montre qu'il y a un regard plus fondamental sur l'homme qui est exigé par l'éthique, par l'expérience de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié ne scrute pas l'homme dans tout ce qu'il a de plus radical. Il faut découvrir le vivant, puisque c'est le vivant qui meurt. Ce n'est pas l'ami comme ami qui meurt. L'ami ne meurt pas, tandis que l'ami, en tant qu'il est vivant, meurt. Il faut donc essayer d'aborder par la mort. Vous voyez l'aspect négatif. C'est cet aspect négatif de la mort qui exige de poser la philosophie du vivant. Mon amour pour mon ami ne lui permet pas de dépasser la mort. Alors que l'amour que j'ai pour lui est au-delà de la mort. Et donc je saisis là que l'amour d'amitié, si profond qu'il soit et si radical qu'il soit, n'est pas cependant ce qu'il y a de plus radical dans l'homme. Il y a quelque chose de plus radical dans l'homme qui échappe à l'amour d'amitié. qui est le vivant. L'homme, en tant que vivant, échappe à l'amour d'amitié. Par là, je me pose un nouveau problème. Là, dans l'amour d'amitié, je suis source. Puisque, grâce à l'amour que j'ai pour mon ami devient l'ami. Il faut cette réciprocité. Il y a quelque chose qui échappe à mon amour. C'est justement que mon ami est un vivant. Et la vie de mon ami est au-delà de l'amour que j'ai pour lui. Alors, qu'est-ce que c'est que le vivant? Qu'est-ce que c'est que l'homme en tant que vivant? Et poser bien le problème à partir de la mort de l'ami. C'est très dur. Et ça, c'est très actuel, vous voyez, parce que dans la philosophie actuelle, la mort joue un rôle très important. C'est l'aspect négatif de la modernité. Et là, nous avons tout à fait, j'allais dire, le droit d'assumer ça. Et je crois que ça montre bien le problème du vivant. Parce que la mort est une rupture radicale à l'égard de l'amour d'amitié. Et donc, la mort me pose un problème. Qu'est-ce que c'est que ce vivant qui peut mourir? Qu'est-ce que c'est que ce vivant qui peut connaître cette rupture très fondamentale en lui, cette brisure qui est la mort? Alors, qu'est-ce que c'est que le vivant? Posez-vous bien la question, c'est très important de toujours voir l'interrogation dans toute sa force. Parce que si on ne voit pas l'interrogation dans toute sa force, on n'avance pas. L'idéaliste n'interroge plus. Comme nous avons horreur de l'idéaliste qui en nous plane tout le temps. Quelquefois, il a des ailes d'aigle et qui cache tout. Il faut redécouvrir l'interrogation première que je pose sur le vivant. Qu'est-ce que je suis comme vivant? Puisque ce que je suis comme ami n'explique pas ce que je suis comme vivant. Il faut donc savoir ce que c'est que le vivant. Le vivant, l'homme vivant, moi-même comme homme vivant. Qu'est-ce que je suis? Je voudrais saisir la source de ma vie. D'où ça vient? Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui fait que je suis un être distinct? Cet univers dans lequel je suis. Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette autonomie par rapport à l'univers dans lequel je suis? Cet univers dans lequel je suis, au point de vue de l'extension, au point de vue de la quantité, il m'enveloppe complètement. Je ne suis pas grand-chose à côté de lui. Je me souviens d'une conférence d'un astronome qui, lui, à la fois l'univers dans toute sa taille. Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant. L'astronome aide à comprendre ce que c'est que la nature et aide à comprendre ce que c'est que le vivant. Il concluait toute sa vision de l'univers en tant qu'astronome. L'homme, pour l'astronome, apparaît un peu de poussière. poussière je suis, poussière je retournerai. Vision d'astronome, vision de sagesse chrétienne. Ça, il avait terminé, c'était pas un croyant, tu vois. C'était quelqu'un qui avait respect de la foi chrétienne, mais il disait, je ne suis pas un croyant. Et mon regard d'astronome me met toujours en face de quelque chose d'infini. Et face à ça, qu'est-ce que je suis? La longitude, je dirais la manière d'être des astres, la figure des astres, comparativement à l'homme, fait qu'on apparaît comme petite fourmi, pas grand chose. La taille de l'homme, comparativement à ces dimensions énormes et infinies. Et c'est vrai, on comprend très bien ça, ce regard-là. Eh bien, face à cet univers qui m'enveloppe, qui m'écrase d'une certaine manière, je suis écrasé par ces chiffres astronomiques. Je suis pourtant un vivant capable de s'orienter, capable, même s'il n'est que poussière, d'une petite poussière vivante, s'oriente à la différence de la fourmi. Parce que les fourmis, de temps en temps, portent des poids énormes qui sont plus gros qu'elles ne sont. Vous savez, quand elles rentrent dans leur fourmilière, c'est très curieux. Mais elles font tout le temps le même trajet. Tandis que l'homme, non. Même si on est tout petit, il y a qualitativement quelque chose d'autre que ce monde physique. Alors les savants diront tout de suite l'entropie et le monde et le point de vue du vivant. Le monde physique va à sa perte. Le monde vivant va à sa victoire. En gros, c'est ça. Il y a une descente et une montée. La vie monte. C'est pas la vie montante, mais la vie monte. Et la matière descend. Curieux, ce regard scientifique, hein, c'est intéressant de poser le problème de cette manière, la mort et la vision des savants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vivant, si petit et si grand, si indépendant et si dépendant? On voit très bien, grandeur et fragilité de l'homme. Ce roseau pensant, on trouve des paroles extrêmement importantes là-dessus. Oui. Encore plus pop, le roseau. Le roseau pensant, c'est pour le poète. La petite poussière animée, c'est pour l'astronome. Alors l'homme doit penser à cela. Qu'est-ce que je suis? Quelle est la source, autant que je peux la saisir, de mon être vivant? Je constate tout de suite la très grande diversité de mes opérations vitales et en même temps l'unité radicale. C'est toujours moi. Je mange, je m'éveille, je travaille, je suis blessé, je suis dans la joie, je pense, j'aime. Et à tout de suite, je. C'est très important de voir ça. Il y a une unité. Je ramène tout à moi. Je ne regarde pas ça au point de vue moral. Je le constate au point de vue philosophique. Le vivant a une force égocentrique d'une puissance qui lui permet de lutter contre l'entropie, contre la destruction du physique. Je remonte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le constate, du reste, d'une manière étonnante. Quand je regarde la vie en dehors de l'homme, le grain de blé qui produit d'autres grains de blé, le vivant est une puissance de conquête invraisemblable. Le vivant est un conquérant. Tout de suite, je le constate par rapport au monde physique. Le monde physique écrase, et le vivant je regarde dans une montagne, là, vous voyez, et que je vois progressivement, je monte, la vie diminue. Il n'y a que certaines espèces de vivants, de vie végétative qui peuvent vivre à une certaine altitude. L'homme pourrait vivre beaucoup plus haut, mais en se mettant à l'abri, en se construisant un abri. C'est comme il peut vivre au pôle Nord, en se construisant un abri. Mais autrement, il ne pourrait pas passer une nuit sans abri au pôle Nord ou tout en haut d'une montagne. Il ne resterait pas très longtemps. Parce qu'on s'abrite quand même toujours, on a un vêtement. Et un vêtement, quelquefois, extrêmement chaud, n'est-ce pas ? De fourrure. Pour... C'est l'animal qui vient protéger l'homme. Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qui est l'unité, source d'unité dans cette diversité. C'est là où progressivement j'induis mon âme. Il y a en moi une source cachée qui permet l'unité, qui fait l'unité de la complexité invraisemblable du vivant et de ce vivant qui est l'homme. C'est cette complexité qui frappe le plus le philosophe, le savant et le philosophe. Qu'est-ce qui frappe le plus quelqu'un comme Teilhard ? C'est la complexité de l'homme. C'est l'animal le plus complexe. Et c'est l'animal le plus humain, puisqu'il a conscience de son unité. Cette conscience de l'unité dans la complexité me permet de comprendre qu'il y a dans l'homme ces deux aspects, l'extériorité et l'intériorité. Et l'intériorité porte l'extériorité. Et l'extériorité cache l'intériorité. Alors je peux dialoguer assez longtemps sur l'intériorité et l'extériorité. C'est important au point de vue descriptif. Ce n'est pas encore philosophique, c'est pré-philosophique, mais c'est important dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est toute la phase qu'on pourrait dire phénoménale. Une phase phénoménale en moi qui est l'intériorité et l'extériorité. Comme je me regarde dans la glace, je me dis c'est comme ça que les autres me voient. Tandis que moi-même je corrige tout de suite mon visage. Par l'intériorité, je peux sourire. Ça illumine mon visage terne qui est sans sourire. Je peux ouvrir les yeux et les fermer, faire des petits clins d'œil à la glace. Et la glace répond. Intériorité, extériorité. Mon corps est animé. Il est habité à la différence du cadavre. Le cadavre n'est plus habité. Vous voyez, la mort. Je crois que c'est très important dans cette phase inductive de bien comprendre ce point de vue de l'intériorité et de l'extériorité du vivant. Et que dans toute opération vitale, je trouve intériorité, extériorité. Et plus je m'élève dans la vie, dans les degrés de vie, dans la hiérarchie vitale, plus l'intériorité domine et l'emporte. La vie, c'est la victoire de l'intériorité sur l'extériorité. Et quand je me laisse aller, je ne viens plus qu'un être extérieur. Il n'y a plus d'intériorité. Et je comprends très bien aussi que le vivant, que toutes mes opérations vitales se réalisent dans un certain milieu. Il y a des milieux qui favorisent l'intériorité et des milieux qui favorisent l'extériorité. La ville est le désert. Et je suis un être dépendant de tout cela. Ça fait partie, vous voyez, de cette induction, cette phase première. Comment se fait-il que j'ai besoin d'un milieu et en même temps, le milieu, je peux le transformer. J'utilise mon milieu. Et le milieu me conditionne. Et le milieu peut être pour moi un merveilleux tremplin pour arriver à quelque chose de beaucoup plus intérieur et de beaucoup plus profond. Et je me pose alors la question, qu'est-ce qui fait cette unité en moi? Et qu'est-ce qui me permet d'avoir dans cette diversité si grande la pensée? Et le petit déjeuner. La pensée et le fait de dormir et d'être éveillé. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, progressivement, je découvre ce principe immanent à tout vivant, à moi-même comme vivant. Je pose une source d'intériorité et je vois qu'il y a enveloppant cette source d'intériorité une source d'extériorité, une source d'unité et une source de diversité. Et c'est à partir de là que je pose ce principe d'unité dans toute ma vie humaine, dans toute la diversité de mes opérations vitales. Et cette source, on l'a appelée l'âme. Les traditions religieuses l'ont appelé l'âme. Et je vois bien que ça correspond à ce que les traditions religieuses appellent l'âme. Et le philosophe ne découvre pas l'âme, il découvre une source d'intériorité, une source d'unité au milieu de toute cette diversité. Et il dit que cette source, c'est bien l'âme dont parlent les traditions religieuses. Pourquoi? Comment peut-il faire cette jonction? C'est quand même une jonction assez grande et une jonction qui devient très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître, il faut bien voir la difficulté dans notre monde d'aujourd'hui de parler de l'âme dans un milieu philosophique. Tel point que des grands philosophes, on ne peut pas nier, quelqu'un comme Merleau-Ponty refuse l'âme, refuse la distinction âme et corps. Et il retombe dans une position qui est constante aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit. Même des théologiens. De la part des théologiens, c'est très grave. De la part des philosophes, on peut dire qu'ils n'ont pas été plus loin, très bien. Et ils rejettent cette distinction de l'âme et du corps. Et donc, nous avons une difficulté particulière pour nous, et c'est pour ça qu'on doit être très attentif à cette induction. Ce que cette induction peut poser, ce qu'elle ne pose pas. Elle pose une source d'unité, une source d'intériorité. Il faut expliquer. Il y a nécessairement une source à toutes ces opérations, puisque c'est toujours moi, c'est toujours je travaille, je pense, je mange, je dors, je m'éveille. Autrement, je ne veux pas expliquer ce jeu. C'est bien l'âme. Pourquoi? Parce que, selon les traditions religieuses, l'âme apparaît comme l'intériorité de ma vie humaine, la source intériorité. C'est l'âme qui me permet d'adorer. C'est l'âme qui me permet de remonter à ma source. Et cette âme dont parlent les traditions religieuses, je peux en avoir une connaissance immédiate. Parce que je peux l'aimer. J'ai donc une situation privilégiée par rapport à l'âme. C'est que j'ai une connaissance affective de mon âme. Je peux m'aimer. Et cette connaissance affective de mon âme permet de reconnaître dans les traditions religieuses quelque chose que j'expérimente. Cette connaissance expérimentale de l'âme rejoint bien cette saisie philosophique que je fais par l'induction. Donc, notez bien ces trois moments distincts. Tradition religieuse qui parle de l'âme selon des noms différents. Expérience interne, affective. Je suis capable de m'aimer. Je m'aime. Ça, j'en ai l'expérience. C'est pour ça que cette expérience de l'amour qu'on a pour soi est si importante au plan de sa vie. Si au contraire je découvre que mon corps manifeste à ce moment-là, l'induction de la découverte de cette source est beaucoup plus facile à saisir, cette source différente de mon corps. Je saisis ces deux sources, ces deux principes, l'un d'unité, l'autre de diversité. Le corps implique divers organes. La diversité des organes de vie montre la complexité du corps. Et j'ai saisi au point de départ l'unité dans la complexité. Et en découvrant mon âme, je découvre la source de l'unité. Et cette source d'unité, elle est à travers le corps. Elle est dans le corps. Et je saisis alors à ce moment-là, à la fois, l'unité et la complexité. Donc, le grand problème premier pour la philosophie du vivant, c'est la découverte de l'âme. Et aujourd'hui, plus que jamais. Alors, puisqu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui, faisons grande attention que le terme de l'induction, c'est un principe, une source vitale d'unité. Et que ce n'est qu'ensuite, je dis, cette source, ce principe, c'est l'âme. C'est l'âme dont parlent les traditions religieuses. Oui.
En métaphysique, par rapport à l'objet, vous avez distingué, première approche, on touchait le principe, puis après la source.
Oui, c'est ce que je vais dire.
Là, il semble que vous joigniez source et principe.
Oui, tout à fait. C'est le propre du vivant. Je ne fais plus la distinction. Vous voyez ? Je découvre l'âme comme une source de vie. Donc comme cause immanente. Vous voyez ? Parce que dans l'ordre de la vie, vous ne pouvez plus faire la distinction entre principe et cause. Oui.
Et l'aspect justement de la vie, c'est l'aspect qualitatif, est-ce qu'il ne suffit pas justement d'une opération pour poser l'âme ?
Vous pourriez, mais vous n'auriez pas suffisamment, étant donné la difficulté de saisir une source cachée. Je prends exprès la très grande diversité, parce que ensuite vous auriez des quantités de problèmes, savoir si vous avez une âme végétative, une âme sensitive, une âme intellectuelle. Il vaut mieux tout de suite voir la très grande diversité et voir l'unité. Et je crois que la démarche philosophique implique cette diversité, cette unité. Vous voyez ? Historiquement, ce que vous dites est très juste. Historiquement, on a posé une âme végétative, une âme sensitive, une âme intellectuelle. Puis après, on s'est posé le problème de l'unité. Pourquoi pas se poser tout de suite le problème de l'unité dans la diversité ? C'est ce que fait du reste Aristote. Il pose tout de suite le problème de l'unité. L'induction, voyez, est d'autant plus forte que vous voyez la diversité, la complexité plus grande et l'unité plus immanente. Donc il vaut mieux, puisque je peux, tout de suite faire l'induction radicale. Et de voir ensuite, alors voyez, le second problème, c'est de voir que mon âme, source de ma vie, est source de mon être. Donc je passe de la qualité, de la source vitale, donc de la causalité, au principe. Je fais l'ordre inverse. Parce que la vie est immanente. Je saisis d'abord l'âme comme source de mes opérations. Ensuite, je vois que mon âme, source de mes opérations, elle est principe d'unité et d'être. Elle est principe. C'est-à-dire qu'elle est première dans l'ordre de l'être. Et donc j'ai un ordre inverse. En métaphysique, je saisis la substance comme principe, puis comme cause. En philosophie du vivant, je saisis l'âme comme source de vie, puis comme principe d'être. que justement être source de vie, ça ne peut être qu'au principe d'être. Il ne peut pas y avoir deux choses distinctes. Donc là, il y a un problème important pour nous. Et comme ce problème est difficile aujourd'hui, puisque les philosophes contemporains refusent la distinction de l'âme et du corps, donc refusent cette induction, je dois me poser la question en même temps, pourquoi ils refusent cette distinction? Autrement, je ne suis pas philosophe de la fin du XXe siècle. Je ne fais pas de l'archéologie en tant que philosophe en disant je veux comprendre l'âme chez Aristote. Non, je veux comprendre l'âme chez moi. C'est mon âme qui m'intéresse, c'est pas l'âme d'Aristote. Parce que l'âme d'Aristote, elle existe encore, elle est vivante, elle est source de vie, mais je n'ai pas de communication directe. Même si j'avais une communication directe avec Aristote qui venait m'éclairer un tout petit peu la nuit, l'intellect agent d'Aristote qui viendrait m'éclairer, ce serait une communication extrêmement intéressante. Même là, vous voyez, ce serait quelque chose de purement d'intérieur, je ne pourrais pas m'en servir au point de vue philosophique. Vous diriez, je ne peux pas vérifier. Vous prétendez, mais c'est peut-être un rêve. C'est parce que vous aimez beaucoup Aristote, alors il est là, présent, effectivement. Mais est-ce qu'il est vraiment présent? Ça ne m'avancerait pas beaucoup au point de vue philosophique. Ça m'intéresserait au point de vue de la réminiscence. Ça m'intéresserait au point de vue du fantasme. Ce serait très intéressant pour la psychanalyse. Ça ne fait pas partie des archétypes de Jung. Aristote. Pour les aristotéliciens, on pourrait dire que ça fait partie des archétypes. Il y a un archétype particulier. À côté du serpent, il y a Aristote. Victorieux du serpent. Puisqu'il fait découvrir l'être et que le serpent ne touche pas l'être, il ne peut qu'infecter le vivant. Et il y a quelque chose de plus profond. Alors on aurait un archétype particulier du cerveau de l'aristotélicien. Et ça se marquerait justement dans l'analyse qu'on ferait du sang d'un aristotélicien. Il y aurait chez lui un fondement pour faire naître l'archétype. Non, ça n'existe pas. Tout ça, c'est imaginatif. Et c'est très bien, on peut faire cette imagination. Sûrement qu'il y a un petit quelque chose, mais ça ne va pas jusque-là. Alors, pourquoi je peux passer de la source de la vie à la source de l'être? C'est que la mort me montre qu'il y a une rupture dans la vie. Alors, cette source d'être, et pourquoi un Merleau-Ponty et toutes les séquatches de Merleau-Ponty, donc toutes les disciples de Merleau-Ponty, refusent-ils la distinction de l'âme et du corps? C'est parce que pratiquement ils demeurent dans la description